Donc là, on va vous présenter les intervenants qui apparaissent sur le programme. Ou d'abord, je... Alors, on peut faire ça dans ce sens-là. En fait, on a appelé cette journée d'études écologie et religion pour rester de manière large dans la thématique du séminaire, de la publication, de la... En fait, pour créer un truc, parce que ça avait été pensé comme ça dès le début. Mais on aurait pu aussi bien l'aborder par une autre entrée, beaucoup plus spécifique et problématisée, qui était celle de la circulation et de la sécularisation. Ce sont en fait deux thématiques qu'on trouve chez les trois auteurs que nous avons invités ici. À travers une sécularisation des pratiques, la constitution d'un discours écologiste et une circulation internationale des catégories pour les membres de la communauté de Damanhour, décrit par Vincenzo Pace. Circulation internationale aussi, chez Isacco Turina, mais cette fois des registres d'interprétation politique. Et enfin, sécularisation et normalisation des représentations de l'apocalypse, chez Monsieur Afessa. Dans tous les cas, l'écologie agit comme un réceptacle, et c'est comme ça que je voudrais proposer aujourd'hui cette idée-là, et voir comment vous l'interprétez, comme un réceptacle favorisant la dynamique de sortie du religieux institutionnel et des cadres traditionnels de la croyance.
Donc, du coup, on remercie les trois intervenants. Monsieur Afessa qui vient d'arriver aussi. Juste, je vais présenter juste Enzo Pace pour commencer, et après on présentera chaque personne. Donc Enzo Pace est professeur à l'université de Padoue, il est doyen de l'université de Padoue. Il est sociologue des religions, il a participé à de nombreuses collaborations en France aussi. Donc tu as déjà cité l'ouvrage de Daniel Hervieux-Léger sur écologie et religion, qui est un peu constitutif. Enfin, c'est le premier ouvrage sur ce croisement entre écologie et religion. Et il a publié aussi de nombreux ouvrages sur l'identité religieuse en Europe, si je ne me trompe pas. Donc voilà.
Bon, tout d'abord, je remercie pour l'invitation qui me permet de revenir sur un thème que j'avais aimé beaucoup. Et de revenir dans ces bâtiments où j'ai passé plusieurs fois des journées avec des grands maîtres, à moi aussi, Jean Segui et les autres. Donc, les thèmes, j'avais pensé donc de vous présenter une étude des cas qui concerne une communauté, la communauté Damanhour, la citadelle de la lumière, littéralement, qui est une citadelle qui on peut dire ésotérique, c'est-à-dire que les cadres intellectuels, spirituels des membres de cette citadelle se réfèrent à la tradition ésotérique, et l'intérêt de l'histoire de cette communauté est comment ils sont réussis à transformer ce que traditionnellement l'ésotérisme est une voie initiatique, à transformer une voie initiatique pour un petit groupe d'associés, d'affiliés, à une, je l'appelle, une entreprise charismatique, une entreprise sociale, qui a trouvé dans l'idéologie de la éco-compatibilité la stratégie soit de communication, soit d'insertion sociale, soit de réussite économique, que peut être très intéressant étudier pour venir au thème que vous avez souligné, non? Pourquoi s'intéresser de cette relation écologie et religion? Parce que dans ces cas-là, nous avons un cas où vous avez une voie spirituelle appelée ésotérisme, ou si vous voulez un syncrétisme religieux, qui aboutissent à une organisation, à un système organisé, un système social organisé, expert, Et l'expertise est centrée justement sur la question de la compatibilité d'un microsystème social avec l'environnement, l'éco-compatibilité. L'expérience désormais consolidée de Damanhour, parce que a été célébré l'anniversaire de la fondation il y a 40 ans, donc ce n'est pas une chose, c'est jeune, mais ce n'est pas une chose improvisée. Il y a une histoire de 40 ans qui commence donc en 1975, et quand on décide, les groupes décident de fonder cette citadelle d'Amanhour dans un petit village presque abandonné d'une vallée très isolée, la Val Chiusella. Je vous montre quelque chose. La Val Chiusella, ça c'est les leaders, Roberto Airaudi. Et évidemment, chacun qui entre dans la communauté change son nom. Il y a une sorte de rituel pour changer les noms. Et tout le monde est obligé à choisir un nom d'une fleur, d'une plante et un nom d'un animal. Il s'appelait Falco Tarasco, faucon dent de lion. Mais, par exemple, je connais très bien le porte-parole, c'est une femme très, très gentille qui s'appelle Fourmi Coriandre. Donc, il faut toujours se rappeler, d'éviter de l'appeler avec le nom d'origine, etc. Bon, les villages étaient Baldissero Canavese, une Val Chiusella. Et vous voyez où se trouve ce petit village. C'est entre Turin, Aosta, Milan. Mais c'est la vallée, c'est très important que je vous rappelle ça. C'est une vallée qui a été une des centres des usines Olivetti. C'était la première usine d'ordinateurs, après des machines à écrire, mais après d'ordinateurs, qui avait des usines très importantes dans cette vallée. Quand Olivetti a démantelé tout, cette vallée a perdu toute la population qui travaillait comme ouvriers dans les usines Olivetti et presque abandonnée, avec une dégradation aussi de l'ambiance, du système de soutenabilité de la vallée. Alors, ce que je suis intéressé à vous montrer est comment une voie spirituelle produit des effets sociaux sous différents aspects presque inattendus. Parce que peut-être, si vous remontez à la fondation, c'était justement comme la mouvance New Age de cette époque, de se retirer dans un lieu hors du monde, de s'isoler et de construire une communauté des saintes, des purs, donc sans être intéressé à la transformation du monde. Travailler sur soi, pas pour transformer le monde. Mais au contraire, quand on va étudier l'histoire de cette petite groupe, à l'origine sont 15 personnes, maintenant sont presque 600 membres effectifs, plus une quantité de gens qui va visiter, qui va acheter les fromages d'op, qui va passer deux semaines de méditation. Donc, presque 200 000 personnes chaque année qui circulent dans cet centre qui maintenant s'est développé en plusieurs centres dans toute la vallée. Donc toute la vallée, c'est devenu la vallée de Damanhour. pas seulement les petits villages de Val di Serra Canavese. Et je suis tout d'abord demandé s'il existait quelque affinité élective, comme disent Max Weber, entre un modèle, dans ce cas spirituel, ésotérique, et les formes d'organisation socio-religieuse qu'ils ont inventées, qu'Alberto Airaud a inventées et ses fidèles ont inventées. C'est-à-dire qu'il a essayé de passer d'une mouvance plutôt initiatique à la création d'une communauté ouverte. Donc ça, c'est un peu c'est toujours la chose qui plus m'a intéressé, non? Comment on passe du modèle ecclésiola, plutôt fermé, à une société ouverte. Et donc le problème en termes de théorie des systèmes sociaux, c'est étudier si un système social fonctionne très bien, s'il est très fermé, et donc à cause du fait qu'il est très fermé, il est capable de s'ouvrir. Mais c'est une question théorique. C'est une question théorique. Bon, sous bien des aspects, si vous visitez, vous pouvez le faire tranquillement, c'est ouvert, vous devez payer les billets, mais ça, pas de problème. Et vous pouvez voir comment ces vérités, c'est la chiffre, le registre qui maintenant explique les succès, la réussite sociale, c'est justement la question écologique. Ils sont capables maintenant de, si vous visitez les sites, le web, c'est clair le message. Nous sommes maintenant un modèle d'écosystème compatible. Nous sommes devenus dans la liste des communautés, dans les tops. Nous faisons partie d'un réseau de communautés éco-compatibles, etc. Donc c'est la question écologique qui est devenue la clé de voûte pour passer de l'initiative à l'entreprise sociale. Et donc, vous pouvez trouver, si vous visitez ces sites, soit virtuellement, soit dans la réalité, vous trouvez des temples, des espaces pour méditation, mais aussi des usines, des activités artisanales, des activités qui étudient la manière de recyclage de déchets, les photovoltaïques, les bâtiments éco-compatibles, etc. Et donc, il y a toutes des petites entreprises, du point de vue économique, entreprises qui va vendre aussi de ces objets à différents aux clients privés ou des petites institutions publiques qui sont intéressées à acheter ce type de produits. Les 600 environ membres de Damanhour partagent le même toit, mais avec l'idée que il est mieux promouvoir des habitations de familles, 6-7 familles qui habitent dans un ensemble de petites maisons restaurées qui étaient abandonnées. Et donc, il va promouvoir aussi, pas des grandes conurbations, mais une dispersion des groupes de familles dans la vallée, qui partagent des styles de vie, qui partagent différentes manières de traduire la vie, la voie initiatique originaire, in différentes manières. Par exemple, il y a maintenant, ça a commencé il y a 5 ans, un groupe de familles qui a demandé de pouvoir construire des maisons sous les arbres. Donc il y a une petite communauté de familles avec les enfants qui vivent sous les arbres, avec le but d'écouter la voix des arbres. Et à travers, il y a tout un système pour enregistrer les mouvements des plantes, et à la fin de produire une musique thérapeutique, donc des choses apparemment très bizarres, mais la chose la plus intéressante qui va produire des effets sociaux. Donc, alors, vous avez toutes les choses les plus modernes, non? Vous avez donc ceux qui écoutent la voix des plantes, vous avez l'agrobiologique, vous avez à la reprise une filière de fromagère. C'est un succès, du point de vue économique. On a expérimenté les biobâtiments. Pas seulement les systèmes de photovoltaïques, mais aussi toute la compatibilité des matériaux pour les bâtiments, etc. Bon, mais je vais avant. Et toute la stratégie, c'était de, de sacraliser, du point de vue ésotérique, toute la vallée, non? Tous les petits villages abandonnés ont été récupérés, restaurés, et ça explique parce que de la ville de Torino, d'Aosta, mais maintenant d'autres villes de l'Italie,